auditrices, auditeurs de Radio Nîmes, bien le bonjour. René Jacques en votre compagnie pendant une demi-heure pour cette interview politique relative au deuxième tour des municipales 2026. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bouget. Bonjour Vincent Bouget.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le premier tour s'est déroulé dimanche. Vous arrivez en deuxième position avec 163 voix d'écart avec M. Sanchez. Est-ce que le score que vous réalisez, vous l'attendiez, vous le souhaitiez bien sûr supérieur, ou êtes-vous satisfait de ce score que vous réalisez ?
On espère toujours avoir un score supérieur. C'est un score qui est un score historique pour la gauche lors du premier tour d'une élection municipale, parce que on n'avait pas fait ça depuis 25 ans, donc c'est un score qui montre une dynamique que nous avons su imprimer depuis maintenant 18 mois et qui est appelée à augmenter encore au second tour.
Alors on constate une forte abstention, ce qui est assez étonnant pour des municipales où les maires sont les élus préférés des citoyens. Qu'est-ce qui peut expliquer cette abstention élevée ?
Bah, il y a une rupture démocratique dans le pays qui existe depuis maintenant quelques temps, avec une fatigue démocratique, avec le sentiment que les élections ne servent à rien, et donc ça impacte aussi maintenant les élections municipales. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, hein, de toute façon on en est conscient. C'est pour ça qu'on a, durant tout le processus, depuis 18 mois, beaucoup écouté, beaucoup associé la population de la ville, parce que nous savons que c'est les liens qu'il faut reconstruire, les liens de confiance entre ceux qui veulent être élus et ceux qui attendent des élus un rapport privilégié.
Autre point qui est important, c'est le score réalisé par le Rassemblement National et son candidat Julien Sanchez, qui arrive à 30-39%, c'est assez inhabituel sur la ville de Nîmes, où on avait des scores beaucoup plus inférieurs pour le Rassemblement National.
Oui, effectivement, ça a été la nouvelle un peu plus dure à accepter, mais en même temps, qui est aussi se situe dans une vague qui existe au-delà de la ville de Nîmes, d'extrême droite, donc c'est un score important, trop important, et sur lequel il faut pas faire de, comment dire, il faut pas mégoter, quoi. Il faut prendre en compte cette menace qui existe sérieusement pour la ville. Sans doute que les électeurs nîmois ont voulu marquer d'une façon ou d'une autre un besoin de changement. Les sortants ont été plutôt sanctionné dans cette élection.
Oui, en effet, puisque Franck Proust réalise 19,55%, Platini 15,55%, ce qui leur fait pas envisager un avenir particulièrement optimiste, je pense. Ils ont fusionné. Qu'est-ce que vous pensez de cette fusion de ces deux listes ?
Je comprends les électeurs de droite que je croise depuis quelques heures, quelques jours maintenant, et qui ont du mal à accepter cela, parce qu'en réalité, depuis un an, les deux équipes se sont beaucoup affrontées, se sont beaucoup invectivées, ont même pris en otage le fonctionnement de la ville, puisqu'il y a eu des départs, des recompositions, ils ont créé de programmes sur lesquels il y a des différences importantes, et puis là, en 24 heures... tout ça est derrière, et puis on fait semblant de s'entendre. Donc je pense que c'est pas ce que les habitants de cette ville attendent, et globalement les citoyens ont du mal avec un tel spectacle politique, et donc je veux dire que nous on a fait l'exact inverse. On a rassemblé, on a travaillé et on a fait vivre dans la diversité un projet collectif qui s'est adressé aux habitants et qui a été construit par eux.
Alors on va revenir un peu sur les chiffres. Donc je disais qu'il y avait une abstention importante, et comme d'habitude, bien sûr, le premier canton, c'est le canton où il y a le plus de participants. Par contre, on va dire, les quartiers populaires se sont bien moins mobilisés, puisque j'ai constaté que sur le troisième canton, par exemple, on tourne à 52% de participation, Donc c'est 32, j'ai pas mes lunettes, je lisais mal, 32% de participation, ce qui est particulièrement faible.
Oui, oui, oui. Bah après, dans la rupture démocratique, ceux qui sont les plus touchés sont souvent ceux qui sont les plus en difficulté. Donc, on les trouve dans les quartiers populaires, avec voilà des préoccupations qui sont des préoccupations immédiates et quotidiennes, et souvent le sentiment que quoi qu'on fasse quand on vote, ça change pas. Bon, et je pense par contre que ceux qui sont venus voter plutôt pour nous, et même beaucoup pour nous, et qu'ils seront au second tour faire le bon choix, parce qu'aujourd'hui l'alternative est claire, c'est soit l'extrême droite, soit la liste de gauche unie et républicaine que je conduis, qui seront en capacité de s'asseoir dans les fauteuils des élus, et surtout de travailler avec la population, ce qui sera notre cas.
Et donc, votre stratégie ou votre démarche pour ramener tous ces abstentionnistes dans les trois jours qui restent ?
Ben voilà, alors en entre-deux-tours, il est toujours bref. Notre volonté, c'est de pas de godiller un coup à gauche, un coup à droite. On a un projet, une équipe qui s'est constituée depuis longtemps. Donc, on continue à porter de la cohérence. Nous avons dit que nous étions prêts à assumer les responsabilités, et en même temps on va partout dans toute la ville présenter ce qui est aujourd'hui l'alternative politique et le choix qu'auront à faire les électeurs dimanche. Donc il y a des équipes partout dans cette ville, et on essaye de mobiliser, et on mobilise parce que depuis deux jours on sent des gens beaucoup plus concernés et qui s'aperçoivent de à la fois des opportunités que la ville trouve un nouveau chemin de développement avec nous, parce que parfois ils n'y croyaient pas, là ils le voient, ils le mesurent, et puis aussi beaucoup de gens qui se disent qu'on ne peut pas laisser la ville aux mains de l'extrême droite, qui ne connaît pas les dossiers de la ville, qui ne connaît pas la ville, et avec un aventurier de la politique qui voit Nîmes comme un marchepied pour sa carrière, mais qui n'est pas prêt à traiter les problèmes que rencontrent aujourd'hui les habitants de la ville.
Donc on va peut-être revenir un peu sur votre programme et les axes forts de ce programme, les rappeler aux auditeurs.
Si vous voulez, oui, bien sûr.
Ouais, on vous écoute.
Voilà, on a nous pris trois engagements pour permettre de faire de Nîmes une ville qui compte, parce qu'on s'est beaucoup isolé, et dans laquelle chacune et chacun compte, parce qu'aujourd'hui la considération qui est portée aux habitants de cette ville, aux associations, aux acteurs économiques, n'est pas suffisante, et le pouvoir s'est déconnecté petit à petit de la vie des habitants de la ville. Et donc nous voulons d'abord réunir la ville, il y a trop de fractures, il y a trop de divisions, nous voulons favoriser la réussite de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que c'est l'avenir de notre ville, et nous voulons rendre le pouvoir aux habitants, c'est-à-dire partager le pouvoir et faire en sorte que chacun se mobilise. Et ça passe par des urgences qui sont très clairement devant nous, des urgences en matière de santé, parce que l'accès aux soins s'est complexifié, donc on a des propositions pour aller plus vite pour l'installation de maisons de santé pluriprofessionnelles dans les quartiers de Nîmes, et pour la création d'un centre de santé pluriprofessionnel avec donc un personnel salarié en partenariat avec la région qui permettent d'accéder aux soins plus facilement. Puis après, il y a des urgences aussi en matière de sécurité. Nous devons construire une ville apaisée, et donc il nous faut à la fois demander des moyens d'État sur la police et la justice, avoir une police municipale dans la proximité, et aussi beaucoup de médiation et de prévention pour éviter que les feux se déclenchent. Vous savez, moi je suis vice-président des pompiers du Gard. Quand les feux se déclenchent, il faut les éteindre, il faut y mettre les moyens, mais il vaut mieux aussi éviter qu'ils se déclarent, et donc faire beaucoup de prévention.
En matière de santé, je voulais une précision, vous dites un partenariat avec la région, et j'ai vu que la région intervenait fortement sur les problèmes de santé avec différents programmes, donc vous pouvez nous en dire deux mots, je pense que vous les connaissez.
Oui, bien sûr, la région a développé, et Carole Delga à sa tête, qui évidemment nous soutient, ce qu'on appelle des centres de santé, donc ce sont des centres dans lesquels les professionnels de santé sont salariés. Donc il y en a une qui s'est installée à Saint-Gilles, par exemple, et il y a la possibilité à Nîmes, si Nîmes accepte de rentrer dans le dispositif, ce que Nîmes a toujours refusé de faire jusqu'à maintenant, d'en installer une. Et aujourd'hui, quand on interroge la population, dans sa diversité, la question de l'accès aux soins, la difficulté de trouver un médecin traitant. Il y a presque 15 000 habitants de cette ville qui sont sans médecin traitant. On a besoin donc de trouver des dispositifs qui facilitent ça. Alors ça suffira pas, il faudra d'autres dispositifs, mais depuis maintenant plusieurs années, des professionnels de santé qui étaient prêts à s'installer, que ce soit à Pissevin ou à Gambetta, ont vu leur dossier ralenti, ou en tout cas pas assez soutenu par l'équipe en place, et nous devons aller beaucoup plus vite pour permettre à tout le monde de se soigner dans cette ville.
Et une collectivité comme la ville de Nîmes intervient à quel niveau pour l'installation de futurs soignants ?
Alors évidemment, c'est pas la ville qui forme les médecins, mais ouais. Il y a des internes au CHU qui, une fois sortis de l'internat, sont en capacité de rester dans la ville à condition qu'on leur trouve un accueil favorable. La ville peut intervenir sur le foncier pour permettre d'avoir des locaux disponibles. C'est le cas notamment de ce qui peut se passer avec les médecins à Gambetta, dans les locaux de la Poste. Alors sans remplacer la Poste, il faut que la Poste reste là, mais il y a beaucoup d'espace encore disponible. Et puis c'est le cas aussi à Pissevin, dans le cadre de la rénovation urbaine, mais on aurait pu aller plus vite. Et puis la ville peut intervenir en aidant l'exercice coordonné de la médecine, c'est-à-dire en favorisant un exercice où les médecins et les professionnels de santé ne se retrouvent pas isolés et seuls, parce qu'aujourd'hui les nouveaux professionnels cherchent aussi beaucoup de liens, et donc ça c'est ce que peut faire la collectivité. Et enfin, dernièrement, on en a parlé, c'est la question d'un centre de santé dans lequel les médecins sont salariés.
Dans le cadre de la politique de la ville et de la réhabilitation des quartiers, je crois que la ville de Nîmes a bénéficié d'une masse importante de crédits. Il me semble avoir lu que ça s'est levé à près de 470 millions.
Oui, même un peu plus. Ouais.
Même plus, ouais. Ah bon, d'accord. Et donc, l'utilisation qui en est faite vous paraît judicieuse, ou vous verriez les choses autrement ?
Le problème, c'est que c'est très long, quoi. Ouais. Ça dure depuis des années. Il y a eu des ralentissements. Je pense que le projet n'a pas été porté politiquement de façon suffisamment volontaire. On a même affaire de la gabegie. Quand on rénove une médiathèque, je pense à la médiathèque Marc Bernard, et que quelques années après, à hauteur de 1 million d'euros de crédit d'État d'ailleurs, et que la ville décide de la détruire, alors qu'on y a mis beaucoup d'argent public. Bref, tout ça c'est très long, et les habitants qui vivent dans ces quartiers, ou qui vivent tout simplement dans la ville, se disent que on n'accélère pas suffisamment, parce qu'il y a des gens qui vivent et dans des difficultés. Donc oui, il y a beaucoup d'argent. Alors c'est lissé sur plusieurs années, hein. Je pense que faut pas laisser penser que c'est de l'argent volé par les habitants ou qui disparaît ou qui est indu, hein. Donc il y a besoin d'accélérer, et surtout il y a besoin de créer beaucoup de liens d'activité économique dans ces quartiers, parce que le bâtimentaire, ça ne suffit pas. Il faut rénover des logements, mais il faut aussi créer de la vie et aider à ce que les gens vivent en sécurité partout.
Et quelles sont vos propositions, justement, en matière économique ?
La question de l'économie, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est qu'il y a des forces sur ce territoire qui ne sont pas suffisamment considérées ni écoutées, et qu'on attend comme par miracle, des gens qui viendraient de je ne sais où s'installer sur le territoire. Or, il y a des gens qui travaillent, qui développent des entreprises, qui ont même des belles entreprises, et qui pourraient développer davantage si on les mettait autour d'une table, si on crée des synergies entre le monde économique, l'université. Et donc, c'est pour ça que nous proposons la création d'une agence de développement économique qui permette de favoriser le développement des entreprises qui sont là, mais aussi de permettre d'accueillir les entreprises qui viendraient d'ailleurs et qui pourraient trouver à Nîmes un environnement économique favorable. En travaillant sur des secteurs ou des catégories, oui, des secteurs d'activité peut-être porteurs pour la ville, la question du risque notamment, la question du réchauffement climatique. On est une des villes qui est le plus touchée par le réchauffement climatique. On doit être une des villes pionnières pour cette adaptation. Et donc, on a besoin d'entreprises, on a besoin d'innovation, on a besoin d'industrie. Aujourd'hui, moi, les acteurs que je vois, ce sont des acteurs qui sont prêts à s'engager, mais à condition qu'on les associe. Et c'est ce que nous comptons faire en responsabilité.
Alors, toujours en matière économique, il y a un gros dossier, c'est l'attractivité du centre-ville, ou plutôt la vie du centre-ville, avec le problème des halles, et le fait qu'on ait fait venir de grandes enseignes. Mais est-ce que vraiment ça a attiré du monde au centre-ville? C'est vraiment quelque chose d'important?
Alors, la venue des galeries Lafayette a sans doute attiré du monde, et ce que nous disent les commerçants autour, c'est que ça a créé de l'activité. Mais ce qui est le poumon du centre-ville, ce sont les halles alimentaires, le marché alimentaire, qui est un marché historique, patrimonial des Nîmoises et des Nîmois, et sur lequel la ville, la majorité actuelle, n'a pas suffisamment bien travaillé. Et il faut préserver l'identité des halles, rassurer les étaliers pour leur dire que nous comptons sur eux et nous voulons faire en sorte qu'ils continuent leur activité, qu'elle soit pérennisée. Et il nous faut faire les travaux qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de faire des travaux pharaoniques d'embellissement. On n'a pas besoin de changer la nature ni l'identité des halles. Par contre, il y a des travaux de mise en sécurité à faire. Et c'est sur ça qu'il faut travailler rapidement. Donc reprendre le dossier sérieusement, pour que les halles restent les halles, qu'elles soient ouvertes à tous, qu'elles soient le marché populaire dans lequel on aime se rencontrer, on aime croiser ses amis, plus ou moins vieux d'ailleurs, dans la ville, plus ou moins anciens, et donc on aime prendre le petit café sur le zinc de la buvette, ou se retrouver à acheter sa brandade ou ses olives, voilà, parce que c'est ça qui fait le cachet, l'attractivité de Noailles aussi.
C'est vrai que les halles sont un lieu de convivialité.
Et oui, c'est le commerce, c'est au-delà du commerce, ouais, c'est un lieu qui crée du lien.
Alors, je crois que la semaine dernière, quand je vous avais reçu, il y a un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, c'est le sport.
Ah oui.
Et l'avenir des Costières, des Antonins, etc., qui pose problème à ce dossier qui a été mal enclenché depuis le début et qui maintenant...
Ça c'est sûr, ouais. Ça a été très mal enclenché depuis le début, et la ville de Nîmes, la majorité sortante, s'est liée les mains sur un projet immobilier de l'ancien président de Nîmes Olympique, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve un peu dans l'obligation de passer à la caisse, parce que sinon on fait disparaître le club de foot, qui est quand même aussi, comme les Halles, un club patrimonial et un lieu de convivialité, de sociabilité. Donc là, il y a maintenant, on a des problèmes à régler, et il faut les régler, on va les régler. Nous considérons que le stade des Costières a de l'avenir, à la fois pour permettre le développement du club de Nîmes Olympique, mais aussi pour accueillir des activités sportives dans les salles, puisqu'il y a beaucoup de salles dans le stade des Costières, et que la rénovation est possible à condition de sans doute de la phaser, parce qu'on n'a pas besoin de tout rénover d'un seul coup. Et puis surtout, on a besoin d'avoir de la clarté sur le dossier, parce que les chiffres qui nous sont présentés ne nous paraissent pas très sérieux et solides. Et donc, on va réparer tout ça. On y est prêt, le dossier on le connaît, et on sait qu'on peut avancer.
Oui, alors le stade des Costières, moi j'avais lu, alors vous allez me confirmer ou m'infirmer, qu'il y avait des travaux énormes pour la rénovation, qu'une tribune menaçait de s'effondrer, etc. Et il semble que ce ne soit pas exactement niveau-là.
Toute cette histoire est partie sur un mensonge, puisque le dossier, il y avait soi-disant un fameux rapport qui disait qu'une tribune était en train de s'affaisser. Et à partir de là, c'était en 2019, c'est raconter l'histoire qu'il fallait détruire le stade, en construire un autre, etc. Et à chaque fois que moi j'ai demandé depuis plusieurs années, mais montrez-moi ce rapport, tous les gens qui me disaient, oui, il existe un rapport, m'ont dit, non, mais nous on l'a pas vu, mais on sait qu'il y en a un. Et au final, ce rapport n'existe pas, puisque jamais personne n'a été en capacité de nous le présenter. Donc le stade des Costières, le dossier du stade des Costières, c'est à la fois un scandale financier, économique, un fiasco sportif, mais aussi un scandale démocratique, parce qu'on a menti aux Nîmois pour des intérêts privés, et à l'époque, nous étions bien les seuls à le dénoncer, puisque la droite municipale, comme le Rassemblement National, avait tout à fait validé les projets de Rani Assaf.
Mais là, j'ai lu dernièrement, donc il fallait, pour sortir de tous ces problèmes, que la ville débourse 9,3 millions entre les Costières, les Antonins, la Bastide. Mais qui c'est qui est propriétaire, en fait, actuellement ?
Alors, les Costières appartiennent à la ville, puisque ça n'a pas été vendu. Oui. Par contre, le domaine de la Bastide et le stade des Antonins appartiennent à la société de Rani Assaf. Et effectivement, Rani Assaf joue du chantage, hein, parce que comme la ville lui a donné les clés de tout, ben aujourd'hui il est maître du temps et des lieux, et donc il demande à la ville de racheter ses infrastructures. Sinon, le club ne peut plus ni jouer ni s'entraîner. Alors, le stade des Antonins, très sincèrement, pourrait s'en passer et rénover rapidement les Costières. Le problème, c'est la Bastide, c'est le centre d'entraînement, le centre de formation. Et s'il n'y a pas ça, le club ne peut pas continuer à exister. Et d'ailleurs, Rani Assaf est toujours propriétaire de la marque Nîmes Olympique, qu'il met dans le paquet cadeau. Et donc, il dit, écoutez, soit vous me rachetez tout, soit le club est plié. Donc, on a affaire à un chantage. Et c'est là, et j'en veux beaucoup aux responsables actuels de la ville, parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation.
Alors, concernant le centre de formation, moi qui ai un certain âge, j'ai les souvenirs des centres de formation de Nîmes Olympique qui étaient connus et reconnus. Et je trouve extraordinaire que quelques années après, il n'y ait pratiquement plus de formation, de centre de formation, ni quoi que ce soit.
Le projet de Rani Assaf était un projet. Il prévoyait, d'ailleurs, il ne s'en est jamais caché, hein, pour le coup, on peut lui donner ce crédit-là. De ligue fermée, c'est-à-dire le modèle un peu américain, avec une équipe professionnelle, mais lui, il considérait que la formation n'était pas rentable et qu'il fallait la régionaliser. Moi, j'ai échangé avec lui, j'étais pas d'accord avec lui, mais voilà ce qu'il projetait. Et donc, ce centre de formation, il a pas voulu continuer à demander l'agrément pour que ça soit un centre de formation qui permette de travailler sereinement. Et puis, les locaux, les terrains, aujourd'hui sont très vétustes et il faut non seulement les racheter mais aussi les rénover.
Eh bien, si vous êtes élu, vous avez du boulot en perspective. Alors,
oui,
ne
mais
serait-ce
ça nous fait...
que pour,
ça
pour
nous
sauver
fait pas peur,
Nîmes Olympique.
Ça nous fait pas peur et on est prêt à travailler. Les dossiers, on les connaît et on sait où on va.
Très bien. Autre sujet qu'on n'avait pas particulièrement abordé, c'est l'école. Tout ce qui concerne l'école primaire en particulier, concernant la cantine, le périscolaire, etc. Donc je crois que vous avez des propositions à faire au Nîmes là-dessus.
Oui, d'abord sur les écoles, peut-être deux grands sujets. D'abord la rénovation des écoles, avec deux axes à travailler sur un plan pluriannuel d'investissement. On ne peut pas tout faire la première année. Mais on sait que 81 écoles sur 83 l'été dernier, en juin, ont dû fermer leurs portes parce qu'il y faisait trop chaud. Donc comme a priori, on en est sûr, le climat ne va pas se rafraîchir et qu'il risque de faire plus chaud encore en juin, mais aussi en septembre, on a intérêt à rénover les écoles thermiquement, à les végétaliser, à renaturer les cours. Ça, c'est des choses qui doivent s'enclencher rapidement. Nous, on a prévu d'avoir 6 écoles par an durant le mandat à partir de l'année 2027 à rénover, ce qui en fait rénover à peu près un tiers sur le mandat. Évidemment, il faut qu'on regarde quelles sont les écoles prioritaires à faire. Et puis après, au-delà de la question bâtimentaire, il y a la question du périscolaire, parce que ça, c'est l'affaire de la mairie. Et il nous faut renforcer le périscolaire parce que tout simplement, ça aide à bien grandir les enfants, ça leur permet de faire des activités culturelles, artistiques ou sportive, et qu'on a besoin d'investir dans l'éducation de nos enfants, de tous nos enfants, pour que demain ils trouvent des possibilités de se former, de continuer leurs études et de grandir de façon apaisée.
Eh bien, il nous reste encore deux ou trois minutes, un peu plus de trois minutes à passer ensemble. On a parlé de la santé, de l'école, un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qu'on va réaborder, on avait abordé l'autre fois, c'est la sécurité, parce qu'on entend beaucoup de choses sur votre programme par rapport à la sécurité, la police municipale, etc. Alors, peut-être il est intéressant que vous précisiez à nouveau votre
position. Oui, je vous remercie, parce qu'effectivement, on a eu affaire, pendant le premier tour, à une campagne de désinformation concernant nos propositions, sur un certain nombre de sujets. J'invite donc tous vos auditeurs à regarder nos projets, ce que nous avons dit, notre programme. Mais sur la sécurité, c'est une priorité, nous l'avons dit. Nous avons besoin de travailler sur les questions de fermeté. Il faut des moyens supplémentaires d'État, mais je l'ai dit, dans la police et la justice, et une police municipale qui soit repositionné dans la proximité. C'est ce qui nous est demandé. Il ne s'agit pas du tout de la désarmer comme j'ai pu le lire ou l'entendre, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est pas possible, et dans le même temps on ne va pas demander à la police municipale de faire le travail de la police nationale. On a besoin d'avoir une police municipale qui crée des liens de confiance dans la population et qui soit au milieu, dans la proximité, pour éviter un certain nombre de problèmes qui arrivent et sur lesquels après on a beaucoup plus de mal à intervenir. Donc nous avons des idées, y compris d'avoir une police de concertation, c'est-à-dire qui permette, comme ça se fait au Canada, vous voyez, on regarde ce qui se fait ailleurs et qui marche, une police qui permette d'orienter, de prévenir beaucoup de choses et d'orienter quand c'est des problèmes économiques et sociaux, des problèmes de santé, avant de faire des appels en urgence sur des problèmes à proprement parler de sécurité.
Alors les problèmes se posent surtout dans les quartiers les plus défavorisés, où en fait, malgré tout ce qu'on peut apporter au niveau des politique publique, moi il me semble, alors je sais pas ce que vous en pensez, que tout provient du fait qu'il y a un taux de chômage particulièrement
bien sûr,
élevé.
Bien sûr.
Moi il se trouve que j'habitais Épicevin, dans les années 70-80, il y avait un cinéma, deux discothèques,
ah oui.
des magasins publics. Qui étaient très bons dans la rue
Wagner.
Wagner, et que tout ça a disparu. Les gens sont sans boulot, ce qui en fait des cibles idéales pour les narcotrafiquants.
Ils sont plus vulnérables, notamment les jeunes. Alors après, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi,
oui,
qui travaillent sur des boulots qui sont d'ailleurs pas faciles, tard le soir ou tôt le matin, et qui ont des problèmes d'ailleurs pour se véhiculer selon le cas. Et donc il faut travailler effectivement le développement économique dans ces quartiers. Mais il ne faut pas croire, beaucoup de services publics ont déserté.
Ouais.
Donc on a finalement mis, au contraire de ce qui est dit par certains, pas tant de moyens que ça. Par contre, on a besoin de nous occuper de tous les habitants de cette ville, et parce que c'est notre ville à tous, quoi.
Eh bien écoutez, il vous reste une minute et demie donc pour conclure cet entretien. Je vous remercie d'être venu et de nous avoir apporté toutes ces précisions.
Donc, merci à vous. Bah, écoutez, voilà, dimanche, il y a un choix clair à faire. Soit la ville sera prise par une extrême droite et un aventurier de la politique qui va considérer cette ville comme un marchepied. Il ne connaît pas la réalité des dossiers de cette ville. Il n'en a pas vraiment grand-chose à faire, à mon avis. Il n'est pas prêt à gérer la ville. Et puis surtout, les discours qu'il porte sont des discours de division, de fracture, et nous n'en avons pas besoin. Il y a un autre chemin. C'est celui que nous proposons, qui est cohérent, qui s'est constitué en écoutant beaucoup les habitants de cette ville, qui s'est travaillé avec eux. Nous voulons, rendre la confiance aux habitants de cette ville, leur permettre aux habitants et aux acteurs associatifs, aux acteurs culturels, aux entreprises de cette ville, de se développer ensemble. Voilà, ce chemin, il s'appelle Nîmes en commun. Et moi, j'ai confiance dans les habitants de cette ville, et je sais que dimanche, ils feront le bon choix.
Merci Vincent Bouget, on est arrivé au terme de cet entretien. La musique va revenir sur Radio Nîmes.
Merci, bonne journée.
Bonne journée également pour vous.